Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons revenir sur deux événements qui ont eu lieu la semaine passée, donc à savoir Corinne et le FIC. Et pour discuter de cela, les contributeurs No Limites Sécu sont Jean-Philippe Gaulier.
Bonjour.
Stéphane Bortzmeyer.
Bonjour.
Hervé Schauer.
Bonjour.
Marc Ollagnier.
Bonjour.
Jean-François Audenard.
Bonjour.
Guillaume Prigent.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Donc alors, Corinne, pour débuter, Marc, qu'est-ce que tu as apprécié dans cette conférence ?
J'en profite qu'il est là, mais franchement... Alors, Stéphane a fait la première conf... Alors, il y a eu plein de choses intéressantes, et d'ailleurs, je serais même presque... J'irais même jusqu'à dire une méchanceté. Il n'y aurait pas eu le FIC que je serais quand même venu à Corinne.
C'est méchant pour qui ?
C'est une conf d'une qualité et surtout d'un éclectisme excessivement intéressant. On n'est pas uniquement dans l'analyse de bits du quatrième octet du buffer clavier. J'ai même entendu Stéphane Bortzmeyer expliquer à un journaliste comme moi ce que pouvaient être les mixeurs dans les blockchains. Et j'ai compris. Non, il y a eu vraiment une série d'interventions, notamment dès la première conférence, un universitaire canadien qui a effectué une sorte d'analyse, comment pourrait-on dire, socio-économico-hackeuse, complète de tout un réseau du Darknet.
Un réseau de revente de logiciels, absolument, tels que des botnets, des CNC, etc.
Plein de choses, etc. Expliquant aussi bien le mécanisme économique que les entourloupes que peuvent se faire les vendeurs entre eux, le niveau de confiance, les mécanismes de paiement, la brièveté ou la longévité des intervenants, etc. Et la hiérarchisation des personnes entre elles, c'est une forme d'analyse qui était absolument passionnante, parce que c'est quelque chose que les gens chargés de la sécurité ne mentionnent jamais, parce qu'ils ont la tête dans le guidon, parce qu'ils cherchent plus ils cherchent plus à défendre ou à bloquer plutôt qu'à analyser. Et ce recul était plus que nécessaire. Il y a eu quand même effectivement pas mal d'interventions techniques, mais il y a eu quelques grands moments. Là, je regarde rapidement le programme. Qu'est-ce qu'on a eu
Sur l'exposé de Benoît Dupont, l'universitaire canadien, la partie que moi j'ai trouvée la plus intéressante était justement celle la plus éloignée de mes compétences, c'était la partie strictement sociologique, c'est-à-dire d'analyse du graphe social et des relations sociales et de la mise en évidence des différences entre comment le groupe se décrit et la réalité de sa dynamique sociale. Ce groupe s'auto-proclamait groupe de gens qui font des choses, qui réalisent des outils, et en fait la réalité montrait que la plupart des messages d'introduction, puisque c'était un groupe fermé où il fallait être coopté, donc les futurs membres écrivaient un message pour expliquer pourquoi il fallait les inclure, et très peu se vantaient des outils qu'ils avaient développés. Ils se vantaient quasiment toujours de leur connexion au sens social. Je connais BX1, je connais spécialiste, je connais un tel. Donc dans ce groupe qui prétendait très fort qu'ils étaient loin des conventions sociales et que c'était des doueurs, des types qui faisaient des choses, des vrais hackers, la plupart au contraire comptaient sur leur lien social pour se faire accepter. De même, le chercheur avait fait des jolies visualisations de graphes de relations, de qui avait introduit qui et qui défendait qui. Et on y voit ce qui est classique dans tout groupe humain, qu'il y a un petit nombre de gens très connectés qui ne sont pas forcément eux-mêmes des vrais hackers et qui n'ont pas forcément beaucoup de réalisations, mais qui sont en contact avec tout le monde. Donc une dynamique de groupe qui est très proche de celle de beaucoup de groupes humains et très éloignée de la façon dont certains hackers, black hat, pirates, etc. se présentent eux-mêmes.
Il y avait une anecdote quand même à la fin de cet exposé sur quand la justice a attrapé ou la CIA a attrapé quelques-uns de ces pirates, à combien ils avaient été condamnés, donc 15 ans entre autres pour un hacker algérien. Et quand on voit ce qu'il a réussi à vendre ses exploits sur le forum, c'était quelque chose comme $3,000, là où la justice américaine estimait ça à, je crois que c'était plusieurs millions, hein, plusieurs centaines de millions.
Oui, plusieurs 700, centaines de millions, absolument.
750 millions de dollars, je crois.
Mais ça, c'était l'impact à plusieurs millions.
Alors, tu avais non seulement l'impact, le préjudice, etc., mais lui, il avait récupéré $3,000. Donc,
Et ça, c'est une remarque qui a été faite au cours de plusieurs interventions au cours du César. Il y a eu plus ou moins le même genre de remarques sur l'analyse de FinSeven. En fait, il y a une surévaluation catastrophiste souvent provoquée par les communicants des entreprises de sécurité auprès des médias, parce qu'il faut quand même au moins justifier un travail réel. Mais disons que le FBI a souvent été dénoncé pour la présentation excessivement catastrophiste à des fins politiques évidentes de ces coups de filet. Le chercheur en question a notamment montré une série d'échanges entre le vendeur et ses clients potentiels, avec des décotes sur les mises aux enchères qui sont vraiment stupéfiantes. On n'est pas étonné que les adresses coûtent aussi peu cher.
C'est-à-dire que si tous les acheteurs des grandes sociétés passent par cette école-là, les tarifs des fournisseurs vont vraiment descendre.
Absolument.
Et la surévaluation du préjudice était aussi due au FBI qui voulait justifier l'argent qu'il avait dépensé dans l'enquête, le temps qui avait passé, et qui donc frémait les délinquants arrêtés comme des sortes de types ayant des pouvoirs extraordinaires et ont détourné des sommes colossales, alors qu'on était plutôt, effectivement, d'après les sommes réellement échangées, on était plutôt dans la petite délinquance.
Il y a eu plein de conférences présentes ce jour-là. Si je fais juste un rapide détour, donc il y a eu la détection post-mortem de Bootkit par l'ANSSI. On peut revenir après dessus, mais c'était vraiment très bien sur comment comprendre ce qu'est un Bootkit, comment on le détecte, etc. et quels travaux il proposait. Une analyse forensique...
Juste deux mots, tu peux décrire ce qu'est un Bootkit ?
C'est un malware qui se met à l'amorce du disque dur, alors soit dans le MBR, soit les petites choses qui s'en suivent, et qui vont fausser le démarrage et prendre le contrôle complet de son système d'exploitation, et qui peuvent être indétectables par des logiciels tels que les antivirus, puisque si l'antivirus interroge logiciellement les cellules de démarrage, eh bien, s'il est bien fait, le bootkit va répondre à des choses qui sont fausses. Directement. Alors, on a eu des questions et des débats là-dessus juste après cette intervention, mais ça serait trop long à raconter aujourd'hui.
D'accord. Et donc
La suite du programme, n'hésitez pas à réagir. Il y a eu un retour sur l'analyse forensique du cloud en RAM, alors, par trace IP. Ça, c'était intéressant parce que quand on prend le titre, on ne comprend pas ce que ça veut dire. L'analyse du cloud en RAM. Et en fait, Trace IP, l'année dernière, nous avait montré, pour ceux qui étaient là, comment ils réussissaient à récupérer des parties d'images à partir du browser. Et là, cette année, ils se sont intéressés aux outils de chez Google, genre Google Drive ou Google Docs, etc. Et ils voyaient quelles étaient les traces qui étaient laissées dans l'espace RAM du navigateur, donc Chrome, Firefox, Internet Explorer, qui n'existe plus d'ailleurs, et comment ils réussissaient à reconstituer les échanges, les positionnements, par exemple dans Google Docs, ce qui était archivé et pas archivé, comme par exemple lorsqu'on fait une modification, qu'on supprime cette modification sans qu'il y ait eu d'enregistrement direct, il est impossible de retrouver cette trace. Donc ça, c'était...
Et ce qui est très intéressant, c'est s'il y a eu enregistrement, à ce moment-là, on est capable de d'épiler la totalité des interventions, par exemple, de personnes travaillant sur un logiciel de travail de groupe ou autre, et de récupérer, enfin, s'il y a accès console, bien entendu, de récupérer des informations qui peuvent être excessivement... qui peuvent être touchy, quoi.
C'était très impressionnant.
C'était impressionnant, oui, ça faisait peur.
Comme retour de soirée. Alors, ensuite, on a... je passe sur le forensics, réponse à incident, l'impossible réconciliation.
C'est important.
On peut parler des trolls, effectivement.
Non. Il a fait plus qu'un troll. Il a fait de la vulgarisation et de l'histoire du métier.
Je pense que c'est la
dimension historique, en fait. Il est remonté assez loin l'évolution des différents malwares, des différentes attaques, etc. Et il a beaucoup parlé, par exemple, de la médiatisation de ces choses-là. Étant journaliste, je suis beaucoup plus sensible que peut-être que toi à ce genre de choses. Mais il a exactement déterminé le principal écueil de notre métier. Cette tendance à toujours vouloir surmédiatiser ou donner des qualificatifs qui sont totalement exagérés. Il a très bien décrit, notamment très bien démontré, le système du buzzword, d'où on passe de l'APT au ransomware, etc. Il y a toujours un mot qui n'a de durée que le temps d'une médiatisation et qui, comme toutes les modes, finit par se démoder. Je pense que sous cet angle-là, son intervention était très intéressante. Et puis, pour une fois, il n'a pas parlé binaire.
Il n'a pas parlé technique, effectivement. Il a envoyé du lourd, dans le sens que ça venait, c'était digne d'un Ruf ou d'un Bortzmeyer.
J'allais le dire, parce que bon, il y avait deux points importants quand même dans l'exposé de Sébastien Larignier. L'un, c'était quand même un vrai conflit qui n'est pas facile à résoudre entre les gens de la réponse à incident qui voudraient rétablir le système dans un état de production le plus vite possible et les gens de l'analyse qui voudraient au contraire garder le système attaqué tel qu'il était pour pouvoir l'étudier tranquillement pour la science ou pour porter plainte après. Et là, ce conflit, le titre L'impossible réconciliation le disait bien, c'est un conflit fondamental qu'on ne résoudra pas d'aucun moyen simple.
Alors, il est éternel, il est depuis toujours, entre incident de prod et incident de sécurité. C'est des gens qui ont des objectifs contradictoires.
Il n'existe pourtant pas d'outils pour faire des instantanées mémoire, disques, de systèmes, pour après les travailler en forensic, de façon découplée des environnements de production. C'est des volatilities, je ne suis pas expert dans le domaine, mais il y a des choses qui existent, ce n'est pas utilisé ou ça ne faisait pas partie du scope de l'intervention.
Tu ne peux pas simplement t'arrêter à la mémoire. Oui. En fait, il faut comprendre que dans le métier de la réponse à incident et dans le métier de l'autopsie, sur le métier de l'autopsie, c'est comme une scène de crime. En fait, rien ne devrait bouger, c'est-à-dire même pas les états électriques, etc. Si tu touches la machine, si tu fais des interventions, tu vas être en mesure de faire des choses. On a beaucoup évoqué avec Marc, juste après le séminaire, la cold boot attack, avec les composants CMOS, etc. Et si tu vas toucher la mémoire, si tu rebootes ne serait-ce que l'ordinateur, pour dire « bon, j'ai arrêté l'incident, je redémarre », l'état de cette mémoire, l'état de ses composants a bougé.
Mais ça peut être un compromis acceptable entre besoin d'un côté de repasser le système en production et conserver un maximum d'informations pour faire un travail post-mortem, je vais y arriver, correct, non ?
Ça ferait une excellente émission et peut-être qu'on la fera autour du Chaos Monkey de chez Netflix, en se disant, est-ce qu'à l'heure du cloud et de l'instantané, est-ce qu'on a besoin de rebooter une machine alors qu'on peut avoir le clone à côté directement utilisable ?
Et le deuxième point dans l'exposé de Sébastien Larignier, c'était effectivement le point le plus polémique, qui était qu'aujourd'hui, malheureusement, un certain nombre d'acteurs qui interviennent lors de l'analyse d'un problème ne savent que double-cliquer sur une icône, lancer un logiciel et choisir la fonction print report dans les menus et joindre ça au dossier ensuite sans avoir réellement compris ce qu'ils faisaient. Et il disait que d'abord, c'était dommage. Ensuite, face à la sophistication croissante des attaques, ça devient de plus en plus difficile de s'assurer qu'une telle analyse convient dans tous les cas et qu'il est les outils sont bien, il ne disait pas que les outils n'étaient pas bien, c'est bien d'avoir des outils qui automatisent des tâches pénibles, ennuyeuses, mais quand l'outil remplace le raisonnement, là on a un problème, puisque moi je vois ça comme une grosse différence entre le monde des attaques naturelles, des catastrophes naturelles, et celui des attaques décidées par un humain. C'est-à-dire que si vous analysez un phénomène naturel, une éruption volcanique, l'éruption volcanique ne va pas changer pour contourner votre analyse. Alors que par contre, dès qu'on a affaire à des humains, c'est le cas, ils connaissent les logiciels utilisés et ils vont tendre à utiliser les méthodes qui ne se verront pas avec ces logiciels. Donc en fait, il y avait aussi un aspect plus, je dirais, corporatiste dans le problème qui était que qu'est-ce que devient notre métier si tout ce qu'on sait faire, c'est double-cliquer sur un logiciel et imprimer le rapport. D'autres, à ce moment-là, peuvent le faire et on se retrouverait tous au chômage, ce qui serait triste.
Alors, une excellente intervention par la suite d'un illustre inconnu qui s'appelle Stéphane Bortzmeyer de l'AFNIC sur la blockchain. Alors, je le dis volontairement.
C'est un buzzword, ça, non ?
Bah oui, parce qu'il avait transformé par la méthode ANSI la chaîne de blocs. Alors, Stéphane a posé son micro, donc il ne veut pas réagir sur sa propre intervention. Et je pense qu'il est revenu sur les bases de la chaîne de blocs, histoire que tout le monde comprenne comment ça fonctionnait. Mais un des apports particulièrement intéressants de la conférence, pour moi en tout cas, et Marc l'a cité tout à l'heure, c'est tout ce qu'il y avait autour des mixeurs. comment dire ça simplement, c'est la façon de blanchir du Bitcoin.
On va dire gentiment que ce sont des intermédiaires bancaires sur des bitcoins.
C'est ça.
Ne les accusons pas de blanchiment. C'est quelque chose qui mériterait, à mon avis, d'être mieux répercuté auprès de mes confrères.
Alors, quel est le principe de fonctionnement?
C'est de l'intermédiation.
Ouais. C'est de l'intermédiation. Oui, c'est un broker. C'est ni plus ni moins qu'un broker, mais avec des bitcoins et dans un monde virtuel. C'est un intermédiaire bancaire qui récupère le paiement de Pierre pour le reverser à Paul. Mais qui le fait. Je pense que Stéphane pourrait au moins se prononcer sur la partie technique parce qu'il sait très bien la vulgariser. Mais c'est quelque chose de capital, notamment quasiment tous les échanges qu'on appelle faussement darknet, machin chose, s'effectuent par ce genre d'intermédiaire. C'est donc très important.
Et pour la préservation de l'anonymat, c'est une réelle plus-value.
Et c'est une nécessité dans le système économique moderne, parce qu'il y a nécessairement des intermédiaires bancaires qui ne sont pas obligatoirement véreux. Il y aura.
En fait, l'utilisation la plus courante dans le contexte cybersécurité, c'est que la chaîne de blocs est publique. Tout le monde peut la voir, tout le monde peut l'analyser. Et sinon, la traçabilité ne fonctionnerait pas, puisqu'on ne pourrait pas vérifier. C'est un système pair à pair. Il faut que tout le monde puisse tout vérifier. Donc, par défaut, toutes les transactions se voient, ce qui pose des tas de problèmes de vie privée, aussi bien aux citoyens honnêtes qu'aux délinquants. Donc, ce que font les mixeurs, c'est effectivement qu'ils prennent des versements venant de différentes personnes et qu'ils les reversent à différentes personnes en fusionnant ou au contraire en découpant les achats, en introduisant des délais aléatoires, tout un tas de techniques qui rendent l'analyse plus compliquée, voire impossible. Et naturellement, au fur et à mesure que les techniques d'investigation progressent avec du big data, de l'analyse de graphes, des trucs comme ça, les mixeurs deviennent à leur tour de plus en plus compliqués et il y aura probablement une lutte permanente là-dessus. Et on voit le même phénomène que celui dont je parlais pour l'exposé de Sébastien Darinier, c'est-à-dire qu'il y a maintenant des logiciels d'investigation que les gens ne comprennent pas, qui lancent, qui disent « oui, telle adresse Bitcoin qui a servi pour le paiement d'un rançon logiciel » Là, je parle encore en dessous, là, c'est super. Telle adresse Bitcoin qui a servi pour tel paiement est liée à telle adresse. Et on verra peut-être demain des gens condamnés ou innocentés sur la base des rapports de ces logiciels dont personne ne sait comment ils fonctionnent, dont on n'a pas les sources, dont on n'a pas la méthodologie. C'est un point certainement intéressant pour le futur de l'investigation.
L'autre point qu'on a pu retenir de cette intervention, c'est que le speaker travaillait pour le FBI, mais que ça n'a jamais été confirmé ni infirmé par la société en question.
Je ne parlerai pas non plus des revenus illégaux, probablement illégaux, qui ont été
affichés pendant la présentation, floutés. Donc si un de nos auditeurs a une bonne méthode pour défaire du Gauss, on est preneur. Et puis on a terminé la journée avec une conférence de Solal Jacob de Arxis, qui a fait une excellente présentation technique sans parler de technique. Donc ils ont eu dans le cadre de leur travail un Asus iPad, je sais pas quoi, sous Windows 10.
Et un disque dur SSD.
Alors le disque dur SSD était dedans, soudé dedans, la RAM soudée, etc. Windows 10 avec BitLocker. Et ils devaient faire une analyse post-mortem dessus. Et donc on leur a filé ça au départ. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire de cette chose-là? Et il a démontré vaillamment en 20-25 minutes comment ils avaient fait toute l'analyse. Donc ils ont créé un logiciel pour se monter en RAM, pour pouvoir faire des copies de la mémoire par bloc de 4 gigas, parce qu'au-delà, comme c'était de la FAT, l'endroit où ils pouvaient copier, ils ne pouvaient pas copier l'intégralité du disque dur, etc. Enfin, un vrai acte de bravoure. Ils sont en train de travailler pour potentiellement mettre tout cet outil en logiciel libre, comme ils ont l'habitude chez Arxis. Et bon, on a parlé un petit peu autour des clés BitLocker, la capacité à les récupérer ou pas. En tout cas, ils ont vraiment su démontrer, encore une fois, que l'autopsie, c'était un vrai métier, qu'il y avait un savoir-faire et qu'on était encore assez peu dotés en matière d'instrumentation pour vraiment répondre à tous les besoins qu'il peut y avoir, que ce soit perte, que ce soit incident ou que ce soit attaque.
Et à propos de mettre en logiciel libre, à la même conférence, Corinne, l'ANSSI, dans leur exposé sur l'analyse des bootkits et sur l'analyse du code de démarrage, avait promis également de mettre le logiciel dont ils ont fait la démo en logiciel libre. C'est fait depuis 15 heures, me dit GitHub. Il y a 15 heures, le code a été est disponible désormais sur le GitHub de l'ANSSI. Donc, un nouveau logiciel libre pour les gens qui veulent faire l'analyse du code de démarrage, BIOS seulement, pas encore UEFI.
Parfait.
C'est un très bel outil d'après les démos.
Donc, on a fait le tour en ce qui concerne Corinne. Alors, je pense que c'est une conférence à ne pas rater. L'année prochaine, elle aura lieu à peu près aux mêmes dates.
Alors, chaque année, elle a lieu autour du FIC, hein, que ce soit avant ou après. Normalement, on fait un vote à main levée. Mais cette année, il y a eu un élément perturbateur. On a une pensée pour notre cher Eric Fraissinet qui a été malade et qui n'a pas pu assister du tout à la réunion. Et donc, c'est lui qui devait faire tout le fil rouge. Hein, et c'est vrai que la journée a été un petit peu chahutée. Bon, il va déjà mieux, mais on lui souhaite un prompt rétablissement total. Et du coup, on ne sait pas si ce sera avant ou après, mais ce sera normalement autour. Hein. C'était la troisième édition. Il y avait 300 personnes dans l'amphithéâtre. Alors, je pense que c'est entre autres dû au fait du tarif très attractif. Hein. C'était 10 euros pour les professionnels et c'était gratuit pour les étudiants.
Mais par contre, les orateurs payaient plein pot. C'est une des rares conférences où je vais où les orateurs payent plein pot.
Et donc pour 10 euros, vous avez le petit déjeuner le matin, toutes les conférences, la collation de midi et un bon niveau au niveau des conférences. Hein, donc c'est vraiment très finement géré et c'était vraiment rempli. Moi qui assistais aux trois, j'ai vu la différence et on peut se dire qu'ils vont vite avoir des problèmes de place parce que à chaque fois ça fait... Il y a un véritable succès. Marc, tu as assisté, je crois, quasiment toutes. Hein.
Oui, dès le début. Mais oui, ça risque quand même... j'en ai un peu parlé avec les orgas. Le problème, ça sera aussi le prix qu'ils seront obligés de... Est-ce que financièrement, ça sera rentable? Est-ce qu'il n'aurait pas... il est question actuellement qu'ils se replient sur l'université pour avoir au moins une location de salle un peu plus décente. Car la psychose et les règlements de sécurité leur ont obligé, par exemple, cette année, à engager des vigiles de sécurité. C'est pas rien. Quand on est universitaire et qu'on organise une conférence de ce type, on n'est pas là pour... Il n'y a pas de logique de profit. Du moins, elle n'est pas la même que des conférences concurrentes. Je pense que... S'il y a une conférence à sponsoriser, à encourager, c'est bien celle-là. Hein, c'est pas...
Très bien. Donc, on va embrayer sur le FIC. Jeff, qu'est-ce qui t'a plu, toi, lors de cette édition?
Ce que je retiendrai, moi, c'est dans les... Je pense que c'est la plénière de ce matin autour de tout ce qui est... beaucoup de discussions autour des données à caractère personnel dans le cadre de la GDPR. Ce que j'ai appris, c'est que la GDPR, un peu au même titre que les États-Unis et beaucoup de pays anglo-saxons, ont l'habitude de projeter leur législation en dehors de leurs frontières. CF, par exemple, les Patriot Act, hein, pour ne prendre que ça. La GDPR, on est en train de leur renvoyer la balle au niveau des données à caractère personnel, si j'ai bien compris, hein, je ne suis pas juriste, que la réglementation qui est autour de tout ce qui est données à caractère personnel vont suivre les données des personnels des ressortissants de l'Europe, où qu'elles soient dans le monde.
Oui, ça s'applique aux citoyens.
Voilà, et donc je trouve que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qui va dans le bon sens. Après, quand on voit un peu d'un autre côté, on se dit, ouais, GDPR, ça rentre en application, quoi, c'est en mai.
25 mai 2018.
Merci JP. Donc, mai de l'année prochaine. Quand on entend la personne de la CNIL, très intéressante, et qui a bien monopolisé la parole, mais très intéressante, quand on entend qu'ils sont encore en train de travailler dans le cadre du G29 à préciser de quelle façon les entreprises doivent mettre en œuvre le contenu du règlement, se pose une question de qu'est-ce qui va déjà être... les choses ne sont pas secs. sèche plutôt, pardon. Et donc, ça pose un challenge pour les entreprises de savoir comment est en conformité l'année prochaine. Je pense que clairement, tout le monde ne le sera pas, ne serait-ce que parce que comment on répond à l'ensemble des exigences, il faut préciser de quelle façon ça doit être fait pour que ça soit fait correctement. Donc voilà, donc c'est vraiment la conférence que j'ai la plus appréciée, et puis une conférence aussi assez intéressante autour du sujet tendance qui est le bug bounty. Avec encore une fois aussi, on voit l'Europe qui a débloqué récemment là, donc c'est tout frais, 2 millions d'euros pour alimenter et faire en sorte qu'au niveau de l'Europe, le sujet du bug bounty avance et que se structure, même si en discutant avec la députée juste derrière la conf, elle n'a pas été en mesure de m'en dire plus ou de trouver plus d'informations parce que c'est encore en discussion.
Ouais, bah, c'est bon, à 2 millions d'euros, ça va avancer, à la vitesse à laquelle ça va avancer.
Je suis d'accord, mais je trouve qu'au-delà du montant qui peut être qui est assez limité, on va dire, ça montre aussi un peu le côté volontariste sur le sujet de l'Europe, qui peut être aussi un signe intéressant pour les entreprises d'aller aussi dans cette direction, cette nouvelle façon de faire.
C'est un excellent signe. Maintenant, c'est vrai qu'il faudra plus que ça pour que le bug bounty se démocratise.
Guillaume Prigent, est-ce que tu veux bien nous donner quelques chiffres sur le FIC, sur cette édition ?
Bon, j'ai récupéré vite fait, on sort juste des stands, quelques informations. Alors ça reste des résultats provisoires, vers 22h30, 22h40, nous aurons confirmation de l'ensemble des bureaux de vote. Cette édition...
Sans trucage du nombre total de votants ?
Alors, la haute autorité de contrôle des inscrits est régie par des gens de confiance. Donc, on a l'assurance qu'il y avait 270 partenaires, donc partenaires exposants, il faut comprendre, 90 activités entre les workshops, les salons, les ateliers, et 40 délégations étrangères. Voici le retour sur le terrain des informations à chaud. Je vous rends l'antenne, Cognac G, merci.
Alors, Guillaume Prigent, on peut dire que tu as été le monsieur loyal du FIC. On t'a vu beaucoup intervenir sur le stand de Blue Sky Force.
Oui, bah, c'est vrai que cette année, on a décidé d'avoir une visibilité un petit peu accrue. On avait un beau stand de 40 mètres carrés, un mur d'image, une grosse plateforme Inesim avec toutes les solutions des partenaires intégrées sur une grosse topologie, des postes Red Team, Blue Team, et on a joué... toutes les demi-heures, d'entre 9h et 18h tous les jours, des sessions de training par la pratique,
il y avait
training d'entraînement.
Il y avait des Nazgûl.
Il y avait des Nazgûl ensuite à capuche, oui, parce qu'il faut quand même, il y a des journalistes, donc il faut quand même qu'ils reconnaissent bien les méchants. Donc là, j'ai Pimpin qui est derrière moi. Il y avait John Lenneux aussi. Et puis, on avait Barguide, hein, voilà, qui sont les gens qui répondent ou testent les compétences des cyberdéfenseurs avec des attaques graduées en fonction de leur en manuel, ciblées en fonction du battle rythme de l'exercice.
Alors, Éric Leblond, tu viens de nous rejoindre.
Bonjour.
Qu'est-ce qui t'a plu, toi, à cette édition ?
C'est grand, je me suis perdu. Des gens que j'ai pas réussi à voir tellement c'était grand. Non, je suis impressionné par la croissance du FIC. Je ne sais pas s'ils vont réussir à continuer, parce que je ne sais même pas si on va avoir 200 créations de boîtes en cybersécu cette année. Parce que là, c'est vraiment impressionnant en termes de taille. Moi, la variété, vraiment, c'est vraiment la taille et la variété qui m'a surpris. À titre personnel, je suis assez content de l'augmentation du spectre d'utilisation de Suricata. On en a parlé un peu partout. Donc, comme c'est vraiment un produit que je défends depuis longtemps, c'était vraiment plaisant de voir ça.
Hervé ?
Alors moi j'ai la chance de n'avoir assisté absolument à aucune conférence, mais d'y avoir envoyé quelques collègues. Eux, ce qu'ils ont regretté dans plusieurs cas, c'était qu'on n'allait pas au fond des choses, que souvent les intervenants passaient du temps sur des banalités, et que c'est souvent au travers des questions que les sujets intéressants et les débats arrivaient, mais c'est fini, la table ronde s'arrête. Donc je propose d'essayer justement de concevoir des tables rondes où les gens parlent de manière très limitée et que derrière on puisse aller avec les gens de la salle plus loin dans les débats. Alors pourquoi j'ai pas été aux conférences ? Parce que justement moi je suis resté dans les allées. Et ce que je trouve absolument extraordinaire au FIC, c'est un vecteur de découverte fantastique. Moi, je connais aucune manifestation où il y a autant d'exposants. J'aime énormément les très grands stands. Vous savez, il y a des gens comme des régions ou la CGPME qui louent des très grands stands et puis sur lesquels, ou à certaines heures, on peut pas circuler. Parce qu'en fait, sur le grand stand, il y a 10, 20, 30 micro-stands. Et alors, on découvre des tas de sociétés dont on ne pourrait pas imaginer l'existence. Et donc, qui payent des prix très raisonnables, hein, pour être ici. Et là, c'est intéressant. Ça va de la communication par ultrasons à l'hébergeur sécurisé, mais aussi écologique et respectueux de l'environnement. Donc, des choses très originales. Et on trouve des pépites en sécurité. Alors, bon, je dois encore vérifier, hein, leur caractère de pépite. Donc, je ne les citerai pas aujourd'hui. Mais on trouve véritablement des pépites dont on ne pouvait pas connaître l'existence autrement, des gens qui n'ont encore fait aucun concours ou prix quelconque. Et ça, je l'avais déjà trouvé l'année dernière. Je l'ai retrouvé cette année avec plein de petites sociétés. Donc, quand on fait vraiment le tour des allées, ça veut dire qu'on ne va pas aux conférences, hein, parce que ça prend des heures et des heures de marche, hein, vu la taille du salon. C'est aussi très intéressant. Et ça, pour ça, le FIC est absolument unique dans ce style. Après, moi, je pense que c'est très bien les événements fermés ou les événements payants. Mais là aussi, comme par ailleurs, tout le monde sait que je fais des formations, ben, y a des chômeurs qui viennent en formation. Et le fait d'avoir un événement ouvert, où finalement l'entrée est gratuite, hein, c'est aussi quelque chose qui donne une richesse que depuis qu'il n'y avait plus d'exposition type Info Security, on avait perdu en France. Et le FIC nous a redonné ça, et de plus en plus chaque année. Et bon, alors, ça crée parfois des gens qui passent sur des stands un peu originaux, mais c'est aussi une richesse que j'aime beaucoup, hein, par rapport à d'autres manifestations. Donc j'avoue que j'ai beaucoup aimé. Alors j'ai aussi eu la chance d'avoir une entrée pour le dîner de gala. Et là encore, j'ai trouvé intéressant. Alors moi, j'avais pas eu d'entrée depuis plusieurs années. La dernière fois que j'avais pu y aller, on était assis à table. Donc je savais qu'ils avaient changé de formule. La nouvelle formule permet on est debout, mais il y a de quoi s'asseoir, permet de bouger énormément et de rencontrer plein de gens différents. Et là aussi, j'ai trouvé ça très enrichissant et j'ai trouvé que c'était une très, très bonne formule.
Guillaume Préjean, tu voulais réagir ?
Hervé, tu as quand même une bonne expérience de toutes ces choses-là. Tu parlais d'InfoSecurity. Je me rappelle être allé, je ne sais pas si c'est la préhistoire ou le millénaire dernier. Mais
oui, c'est de la préhistoire.
Quasiment. On peut mieux faire ? Il y a des choses à... Imaginez,
je pense qu'on peut toujours mieux faire. Moi, il y a un certain nombre d'idées que j'ai déjà essayé de faire passer. Alors, je ne suis pas allé voir les organisateurs aujourd'hui. Dans les sujets, je pense qu'il y a des marronniers qui sont bons. Le fait de sensibiliser, c'est toujours bon. Je prends des choses toutes simples. Au FIC, on ne parle pas de politique de sécurité, ni de gestion des risques, ni de charte informatique. Enfin, il y a tout un tas de sujets de fond qui sont absents. On ne parle pas non plus des normes. Je ne dis pas du tout qu'elles sont importantes ou fondamentales, mais elles sont là, elles aident beaucoup de monde. Et donc, je pense qu'au-delà des sujets qui concernent l'État, qui concernent... Voilà, bien sûr, on sait que l'organisateur est avec la gendarmerie. Mais moi, j'ouvrirais à des sujets qui concernent beaucoup plus le RSSI. Après, d'autres petits regrets, mais il est propre cette année, il est tout à fait particulier. Le FIC et la journée, l'université de la FCDP tombent le même jour. Et c'est vrai que moi, toute mon équipe a toujours participé aux deux, moi en premier. Je pense que le GDPR et la protection des données, qui est un sujet du moment, il concerne énormément les RSSI, il est très complémentaire au métier des DPO. C'est des gens qui travaillent de plus en plus ensemble. Et le fait que le plus grand événement, où je pense en France, sur les DPO, et un des plus grands, si ce n'est pas le plus grand, qui concerne les RSSI, soit le même jour dans l'année. C'est un petit regret. Je ne sais pas du tout, a priori...
Donc une question de planning, mais ça se travaille, ce n'est pas évident à gérer.
Mais ça, c'est juste cette année. Hein, c'est la première fois que ça arrive.
Donc tu proposes des masterclass, des trainings, des workshops sur des sujets de fond.
Voilà, revenir, comment j'écris ma politique, comment j'adapte la politique que met à disposition la NSSI. Pourquoi la charte informatique, pourquoi je dois en faire une spécifique pour les administrateurs, ça change complètement les choses. choses et ça améliore la sécurité.
Pour
revenir à des petites choses simples qui se font en 45 minutes, j'aime beaucoup la chaîne de blocs, c'est l'avenir, c'est important. Non mais on parle beaucoup de la sécurité des IoT en constatant perpétuellement qu'il n'y en a pas et en faisant rien pour avancer les choses.
Il n'y en a pas, ça avance pas mal. Mais...
Non mais j'aime beaucoup ces conférences, mais je suggérerais...
Back to basics.
Et d'ailleurs, je ne suis pas au comité de programme, mais l'Occlusif, hein, qui est une association dont je suis administrateur, y est. L'Occlusif, je crois, a fait ce type de suggestion. Voilà, c'est vraiment pour améliorer.
J'ai cru comprendre que c'était au programme l'année prochaine.
Ah, merci.
J'ai pas d'informations spécifiques ni les modalités pragmatiques, mais oui, c'est un retour qui a pas mal et je pense que ça serait intéressant.
Marc, tu voulais réagir peut-être ?
Sur ce qui est intéressant, oui, en fait, je participe, je couvre cette exposition depuis l'époque où elle se déroulait dans la caserne et où Michèle Alliomari était la seule oratrice importante. Et c'était, alors là, c'était complètement l'inverse parce qu'il n'y avait que des conférences et les stands vendeurs étaient se résumaient à une petite poignée de spécialistes. Ce qui est très intéressant depuis 2 ans. C'est une forme de, je vais utiliser un terme très fort, de schizophrénie entre la partie politique et la partie de sécurité opérationnelle. Nous avons déjà eu l'an passé avec le ministre allemand de l'Intérieur le même discours sur des politiques qui souhaitaient mettre, sans les nommer bien entendu, des portes dérobées dans les systèmes de chiffrement, cette forme de comportement psychotique des politiques qui exprimaient en face d'un public quand même professionnel leur désir profond, autrement ils ne le diraient pas, de vouloir contrôler des choses qui sont par définition totalement incontrôlables, et le discours très sage de Payou à l'époque, de Poupard ensuite, etc. Il disait, attendez, vous emballons pas, c'est pas des choses qui sont possibles. De toute façon, on va pas faire un truc État français avec notre porte dérobée, comme à une époque, on pouvait avoir ses propres algos de chiffrement avec choisissez votre système d'espionnage préféré, quoi. Et ça serait passé une seule fois que ça aurait été amusant. Là, ça devient récurrent. C'est-à-dire qu'il y a deux discours. Un discours politique traditionnaliste, d'homme politique, j'entends par là, qui suit son chemin, électoraliste, clientéliste, on pourra le qualifier comme on veut, peu importe, il l'est, et une attitude professionnelle qui est parfois à l'opposé, qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est ce que disait Hervé, on perd un temps hallucinant à retrouver des petites entreprises qui font des trucs géniaux. Là j'ai sous les yeux c'est pas une start-up ils ont commencé leur recherche et leurs premières applications en 2010, c'est du has-been, mais c'est maintenant seulement qu'ils trouvent des applications dans le domaine à des gens qui s'adressent à des RSSI quoi. C'est les gens de Kellaps qui font de la modulation de phase sur des vieux systèmes fibre optique, histoire de récupérer des systèmes déjà installés et pouvoir augmenter la bande passante d'un système fibre qui est tombé en obsolescence. J'ai aussi énormément aimé, mais ça parce que ça fait partie de ma perversion, un POC sur le stand de l'ANSI, qui est extraordinaire. Il y a une injection dans un téléviseur où on peut quasiment faire apparaître n'importe quel message d'alerte. Ça, c'est le côté spectaculaire. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'actuellement, l'ANSI, c'est deux mêmes chercheurs de l'ANSI qui avaient fait une presse lors de Hacking Paris il y a un an sur le hacking de Siri, par exemple, ont développé une application qui est en cours d'évolution très, très intéressante, qui est une sorte d'application d'audit de tout ce qui se trouve sur 2 giga 4, pas seulement du Bluetooth, pas seulement du Wi-Fi, mais qui prend absolument tout. Bon, c'est pas encore complètement finalisé. C'est typiquement ce que recherche une personne qui n'est pas un gourou dans le domaine du scan des fréquences, du spectre électromagnétique. Une grande partie des outils, c'est du 2.4. Avoir quelque chose qui est donné par l'État en disant allez-y, feel free to use it, c'est pas mal. C'est pas les seuls. Et ce qui est passionnant, c'est justement cette concentration de petites entreprises qui n'ont pas toujours la visibilité nécessaire. cette notion d'îlot de boîte en cours de développement, c'est fantastique. Alors bien entendu, je suis allé à la place, j'ai pas vu les conférences. En règle générale, c'est quelque chose que j'évite parce que le niveau technique est assez. Enfin, je vais peut-être me faire tuer par les orateurs, mais c'est pas.
Ouais. Non, il est variable, il est variable.
Il est variable, absolument.
Mais parfois difficilement anticipable. Le retour de les gens que j'ai croisés, c'était que il fallait parfois plus faire confiance à l'orateur qu'au sujet et au programme annoncé.
Qu'au titre annoncé, absolument. Certains titres sont excessivement trompeurs, sont très racoleurs, et malheureusement, il m'est arrivé plusieurs fois de tomber sur des titres racoleurs et de sortir complètement déçu, une impression de perdre du temps.
Stéphane, tu voulais réagir ?
Oui, enfin, il y avait dans les parties, je dirais, conférences, la partie importante du FIC, je suis d'accord avec Hervé, c'est de rencontrer des gens et d'aller boire des bières et d'aller discuter. C'est ça qui est la principale valeur ajoutée. Maintenant, pour les conférences, il y en a de plusieurs sortes. Il y a celles dans le grand amphi qui sont en général soit des spectacles, d'autres, il y avait comme ça des gens qui. Il y avait aussi des gens. Alors, il y en avait où c'était des vedettes connues et qui, des fois, font un bon show. Je n'ai pas vu celui de Miko, mais le connaissant, je pense que c'était intéressant. Mais enfin, c'était quand même un spectacle d'un vendeur. Il n'y avait pas tellement de surprises à attendre. Et il y en avait d'autres qui avaient été choisis, soit parce qu'ils étaient des noms connus qui peut-être feraient venir du monde, soit peut-être, je ne sais pas, pour d'autres raisons. Enfin, il y en avait. J'ai pas bien compris. Il y avait des vendeurs d'une telle ou telle solution. J'ai pas bien compris ce qu'ils apportaient. Ça, c'était les conférences dans le grand amphi. Donc, c'était pas toujours bien. Il y avait les ateliers qui n'étaient pas du tout des ateliers. Hein. Le nom est très trompeur. C'était en fait des tables rondes.
Ils sont des tables rondes.
Et donc là, le niveau dépendait des gens qui étaient. Ce que j'ai regretté, par exemple, moi, je vais parler que de la chaîne de blocs parce que c'est le sujet à la mode. Celle, par exemple, premier atelier qu'il y a eu sur la chaîne de blocs, principal problème était plutôt l'absence totale de pluralisme dans le panel. C'était uniquement des gens travaillant pour des organisations dont le business risque d'être affecté par la chaîne de blocs. Je dis risque parce que je ne vais pas reprendre des discours comme quoi tout va être ubérisé et blockchainisé dans les 24 heures. Mais c'est clair que ça donne... Leur point de vue était tout à fait légitime et raisonnable, mais qu'il n'y ait que ça à l'atelier, c'était ça le problème. Et puis, il y avait les masterclass, qui là aussi ne sont pas du tout des masterclass. Ça aussi, c'est des exposés, simplement. Le nom de masterclass, ça fait joli, mais en fait, c'est un bête exposé avec un orateur qui connaît son sujet. Et là, certaines étaient très intéressantes. Il y en a eu une excellente de Renaud Lifshitz.
Renaud Lifshitz, elle était phénoménale.
Alors, évidemment, tout le monde le connaît et c'est facile. On sait que ça va être bien. En l'occurrence, c'était sur la chaîne de blocs et la sécurité de la chaîne de blocs. La salle ridiculement petite était bourrée à craquer. C'était pourtant pas difficile de prévoir que Renaud Lifshitz allait attirer du monde. Très, très bien fait. C'était très intéressant, très vivant. Il y a eu une démo. Il y a eu un problème pendant la démo parce que c'était une vraie démo. On a appris beaucoup de choses. Il y a eu un autre atelier sur un sujet complètement différent sur les réformes nécessaires du code pénal qui avait été fait par Éric Fraissinet et Corinne Thierrache, j'espère que je n'écorche pas son nom parce que je ne la connaissais pas, qui analysait le code pénal en ce qui concernait la cybersécurité, quels étaient les points sur lesquels c'était bon, c'était juste un problème d'appliquer après, les points sur lesquels on pourrait améliorer ou réformer le code pénal et les points sur lesquels il y aura peut-être un peu de toilettage nécessaire. J'ai par exemple appris que la terminologie dans la loi n'est pas standard, que le fameux STAD de la loi Godefrain, le système automatisé de traitement de données, n'apparaît que dans cette loi et que dans d'autres lois, le même concept ou pratiquement est désigné sous un autre nom. Donc il y avait un souci de toilettage, mais globalement, alors cet exposé-là était un peu dur à suivre. C'était du droit, c'était précis, c'était des détails. Il y avait sur les slides, il y avait des textes de loi, enfin des extraits de textes de loi. Ça rentrait pas mal dans les détails parce que souvent c'était subtil. Donc c'était plus difficile à suivre qu'un spectacle dans le grand amphi avec des images de hackers en capuche qui défilent sur l'écran derrière. Mais c'était très intéressant et ça apportait vraiment quelque chose. Il est dommage que la masterclass en question sur le droit et sur la réforme du code pénal, la salle cette fois était... à moitié vide, quelque chose comme ça, parce que c'était évidemment c'était pas spectaculaire. Tout le monde veut pouvoir dire qu'il a vu un ministre, alors même que les discours des ministres comme on s'en doutait, étaient à peu près vides de contenu. Évidemment qu'ils n'ont rien annoncé. Ils n'allaient pas annoncer des trucs importants au FIC. Donc c'est un peu dommage. Et ça, ce n'est pas uniquement faute de l'organisation, c'est aussi celle de nous autres visiteurs du FIC. Si les spectacles vides de contenu, mais grandioses dans le Grand Amphi, attirent plus de monde que les masterclass faits par des experts qui discutent de points vraiment importants en matière de cybersécurité, la loi, le code pénal, on ne peut pas l'ignorer. On a parlé des bug bounties tout à l'heure, ça soulève d'énormes problèmes légaux qui sont en général passés sous le tapis assez rapidement. Ça envoie un mauvais message. En fait, les visiteurs envoient aussi un mauvais message en privilégiant trop souvent ce qui est spectaculaire.
Il y a aussi un problème de promotion. C'est-à-dire que parfois, il n'y a pas forcément la promotion par rapport à l'intérêt du contenu. Mais ça, c'est du marketing. Ce dont on n'a pas parlé, ce sont tous les prix, les concours, les labels. Le FIC, c'est aussi l'événement de l'année où il y a toutes les remises de labels, machin, le prix du meilleur livre de l'année. Il y a énormément de concours Blue Team, Red Team avec des prix à gagner. Donc, il y a aussi beaucoup de conférences. En fait, c'est des remises de prix. Il ne faut pas oublier. Mais bon, ça permet à plein de gens de gagner un prix et de frimer après.
Éric Leblanc.
Oui, je rebondirais sur ce que disait Hervé tout à l'heure, sur le fait que le FIC, c'est vraiment un endroit où on découvre énormément de sociétés, mais ça devient tellement grand que ça devient difficile de faire un tour complet, d'arriver à voir. Et pour reparler de des différentes conférences, un truc qui pourrait peut-être être intéressant, c'est d'avoir des tout petits pitchs thématique fait par les sociétés où elles pourraient se présenter dans une salle. Elles auraient chacune 3 minutes ou un truc comme ça. On y va pour une heure ou deux, on parcourt un sujet. Et ça pourrait peut-être intéresser des décideurs ou des choses comme ça de voir ça et de faire un tour rapide et après de pouvoir les conclure en discutant.
Moi, pendant 5-6 ans, j'ai eu la chance de faire toutes les conférences RSA aux États-Unis. Qui s'approche du FIC, mais juste à l'échelle mondiale. Et donc, tu découvres les pépites de tous les pays dont tu peux vraiment pas t'attendre. Et vu la taille de RSA, et que moi, j'étais habitué à ne rien rater sur RSA, je t'avoue que peut-être c'est une frime, mais tout le monde sait que j'ai des grosses chevilles. Moi, j'ai pas de problème à faire un tour du FIC où j'épure tous les stands pour voir tout ce qu'il y a. Donc la taille est encore accessible. C'est franco-français. C'est-à-dire que, certes, j'ai découvert des sociétés néo-zélandaises improbables au FIC, mais on n'est pas à une taille européenne. Et donc, j'ai pas compté. Hein, les exposants, je l'avais fait l'année dernière. Mais on n'a pas dépassé la quantité d'exposants où, en 2 jours, on ne peut pas voir tout le monde.
Tu as peut-être une méthodologie bien particulière pour faire tout le...
Alors, les allées ne sont pas d'une conception qui facilite le travail.
C'est ce que j'allais dire, effectivement. Lorsqu'on subit une RSA conférence ou toute conférence américaine mégalomaniaque, il y a une vieille technique de journaliste ou de vieux routier des salons qui consiste à ne faire d'abord en premier lieu que la périphérie, car ce sont les stands les moins chers. Et en règle générale, c'est là que l'on trouve des petites entreprises, des startups, etc. Là, on est sur un système de disposition des stands qui est beaucoup plus éclaté, avec des îlots, quelquefois des blocs de petits stands, où là, effectivement, il y a aussi des startups sur les gros îlots. Il y a qu'à voir le centre de cybercompétences, c'était effectivement une concentration de petites sociétés dont certaines étaient mais absolument passionnantes. Donc effectivement, on passe son temps à faire des kilomètres. Quelqu'un qui fait le FIC consciencieusement sort plus fatigué au bout de 2 jours qu'il ne le serait sur un Comdex ou un Network World.
Il manque aussi les associations. Typiquement, enfin, dans la plupart des pays,
il y avait quand même des associations. Pour les associations. Il y avait l'ARCSI, il y avait CESIF.
Enfin, il n'y avait pas le CLUSIF, il n'y avait pas l'OCIR, il n'y avait pas. Enfin, des tas d'associations qu'on a invitées dans nos limites Sécu, y étaient parce que leurs représentants, leur personnel ont parfois parlé dans les conférences et étaient dans les allées. Mais moi, je n'ai pas vu. C'est vrai que je suis aussi habitué aux manifestations dans le monde du logiciel libre, où il y a toujours un espace associatif très très vivant qui fait venir plein de monde. Au FIC, et de manière générale, hein, c'est pas quelque chose qui est très à la mode dans les manifestations en sécurité.
Je rappellerai quand même qu'il existait l'an passé de façon beaucoup plus. Oui. Des universités qui étaient invitées. Il y avait tout un espace pas très loin de la zone de restauration qui était consacré uniquement aux associations qui n'a pas été reconduit
voilà.
cette année.
Oui, tout à fait.
Il existait.
Et moi, je trouve que c'est bien les associations.
Au sujet des associations, on peut aussi signaler que dans les tables rondes en séance plénière, dans le Grand Amphi, il y a en général au FIC, il y a un effort d'ouverture modérée. Par exemple, cette année, il y avait la table ronde où il y avait Amélia Andersdotter, qui était à la fois la seule femme, la seule société civile, la seule des gens qui, disons, représentaient les numéristes, comme disait un ancien ministre, et qui avait très bien expliqué et argumenté sur des questions comme celle du chiffrement ou du respect de la loi par l'État lui-même, et pas seulement du respect de la loi imposée par l'État. Donc ça, c'est un avantage du FIC, c'est que, bon, il y a certes un peu la priorité aux institutionnels dans ce genre de table ronde, mais il y a aussi un effort à chaque fois pour... il faut quelqu'un qui défend les droits de l'homme aussi.
En conclusion...
En conclusion, moi, je pense que... Bon, j'ai pas encore tous les comptes rendus des conférences, mais je pense que c'est une très bonne édition.
Donc, venez l'année prochaine au FIC, si vous en avez la possibilité.
Oui, alors, c'est quand même facile. Hein. Certes, c'est à Lille, mais c'est tout près de Paris.
Très bien. Je dirais, venez... Enfin, profitez-en à plus forte raison si Corinne se passe un jour avant ou un jour après. Je crois que c'est très important. En fait, ce couple Corinne-Fic est merveilleusement bien ficelé. Parce que les gens qui viennent chercher des confs d'un niveau technique un peu plus élevé seront de toute façon charmés par la qualité de Corinne. On est dans la même mouvance, on est dans le même... En plus, il y a un public qui est commun indiscutablement entre les deux conférences. Oui, c'est un excellent tandem, il faut que ça...
Attention, hein, pour passer plusieurs jours, il faut le prévoir à l'avance. Hein.
Oui, parce que les réservations d'hôtels...
Et même Airbnb, il n'a plus rien. Hein. Donc le FIC, c'est quand même un gros événement pour Lille.
Très bien.
Le mondial de handball. Hein.
Ah oui, en plus.
Oui, en plus, en même temps.
Je pense que ça a aussi expliqué les hôtels.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.